Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Deuxième et dernier jour de la mission de la CEDEAO au Mali. Après avoir échangé avec les autorités de la transition, la délégation a rencontré hier la classe politique en début de soirée. Une rencontre est prévue aujourd'hui avec le président du Conseil national de transition ainsi que des leaders de la société civile. Une semaine après la frappe aérienne à Bounti, cercle de Douenzan, l'Association malienne des droits de l'homme, la AMDH, et la Fédération internationale des droits humains FIDH demande l'ouverture d'une enquête. L'incident avait coûté la vie à plusieurs civils. Notre dossier du jour s'intéresse au Gombo. Il s'agit concrètement du business au sein des services médiatiques et d'autres structures de la place. Que dit la loi sur le sujet? Élément de réponse dans ce journal avec la présentation de Sekou Gadjigo, mise en onde de Mamadi Keita. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO au Mali est arrivé hier lundi à Bamako à la tête d'une délégation. Cette visite de deux jours s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évolution de la transition. Goodluck Jonathan doit rencontrer les autorités de la transition, la classe politique hier soir. Une rencontre est également prévue avec le président du Conseil national de transition et d'autres acteurs impliqués dans les élections aujourd'hui. Les détails avec Mamadou Samasekou.
Goodluck Jonathan est accompagné du ministre des Affaires étrangères du Ghana et du président de la commission de la CEDEAO. Au programme, la délégation doit rencontrer le président de la transition, le vice-président de la transition ainsi que le premier ministre Mokhtar Wane. L'ex-président nigérian et sa délégation doivent également être reçus par le président du Conseil national de transition. Des rencontres sont également prévues avec la classe politique et la société civile. Dans le cadre de l'organisation des élections générales, la délégation aura aussi une séance de travail avec la CENI et la DGE. Cette nouvelle mission de l'ancien président nigérian intervient alors que les autorités de la transition viennent de boucler 100 jours à la tête du pays. Il s'agira donc, selon la représentation de la CEDEAO au Mali, de faire le point de l'évolution de la transition. Un sommet des chefs d'État de la CEDEAO est prévu le 23 janvier prochain. Goodluck Jonathan devrait également aborder avec les autorités l'affaire dite de déstabilisation du pays. Plusieurs personnalités civiles sont déjà écourillées dans cette affaire. L'ancien premier ministre Boubou Cissé, introuvable selon la justice, est également cité dans cette affaire.
Même si je ne vis pas au Mali, je sais que des progrès raisonnables ont été réalisés dans la conduite de la transition. C'est en ces termes que s'est exprimé le chef de la délégation de la CEDEAO à sa descente d'avion. Selon Goodluck Jonathan, la délégation sera édifiée davantage d'ici la fin de son séjour ce mardi. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO au Mali, est au micro de Mamadou Samasekou.
First and foremost,
I'm a part of Mali now.
Je suis désormais partie intégrante du Mali, donc je peux venir au Mali saluer mes amis du Mali. Moi, ma visite ici s'inscrit dans ce qui est arrivé et qui a nécessité l'intervention de la CEDEAO, fait partie des problèmes humains. C'est normal qu'il y ait des différences ou des malentendus entre humains. Donc à cet effet, nous allons poursuivre les échanges, les discussions avec les différentes parties prenantes jusqu'à l'organisation des élections. Donc la CEDEAO se donne comme devoir de suivre le processus, de voir quels sont les avancées enregistrées et quel apport, quel concours elle peut encore apporter. Donc c'est pour ce faire là que je suis ici. Nous aurons à discuter avec le chef de l'État, avec le vice-président, avec le premier ministre, le président du CNT et d'autres parties prenantes. Et après ces différentes rencontres, nous allons repartir.
Thank you so much.
Je vous le disais à l'instant, hier en début de soirée, la délégation de la CEDEAO a rencontré la classe politique. Au cours de cette rencontre, le M5-RFP a déclaré que l'engagement partagé d'instaurer au Mali une transition civile est violé. Le M5-RFP dénonce la présence dominante des militaires et leurs proches dans tous les organes de la transition. Imirana Kilumaïga nous en dit plus.
Au cours de cette rencontre avec la délégation de la CEDEAO, le M5-RFP a fait part des quatre principales inquiétudes sur la gestion de la transition. Il s'agit d'abord de ce qu'il appelle la militarisation de la transition avec la nomination des militaires et leurs proches dans tous les organes. Aussi, le M5 a estimé que des menaces fortes pèsent sur la tenue des élections régulières, transparentes, inclusives et crédibles. Sur ce point, le mouvement a indiqué que les autorités de la transition s'éloignent de plus en plus de la mise en place d'un organe unique et indépendant chargé des élections, pourtant réclamé par la classe politique. Le M5-RFP a dénoncé également un processus non inclusif de révision de la constitution en cours. Autre inquiétude du mouvement du 5 juin, c'est la mise en place rampante, selon lui, d'un régime autocratique. Chose inacceptable, ajoute-t-il. Pour les M5-RFP, l'exercice de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, l'insécurité grandissante et la refondation de l'État sont des préoccupations pour les M5-RFP que les autorités de la transition doivent prendre en compte.
Explication signée Imirana Kilou Maïga. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Accélérer la réforme du secteur de la sécurité permet le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national. C'est ce à quoi veut s'atteler le gouvernement de transition réuni en session ordinaire. Le Conseil national pour la réforme de la sécurité a fait le point de l'évolution de la situation sécuritaire et l'urgence d'y faire face. Cette réunion présidée par le Premier ministre s'est tenue alors que plusieurs parties du pays, notamment au centre et au nord, font face à une recrudescence de l'insécurité. Awa Berthe.
Dans les centres, le nord mais aussi le sud, les populations civiles continuent d'être terrorisées par les groupes extrémistes. Les forces armées maliennes et leurs partenaires sont régulièrement prises pour cible. Face à cette situation, les autorités de la transition veulent prendre les mesures idoines pour le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Une des missions prioritaires assignées dans la feuille de route de la transition. C'est pourquoi le Conseil national de la réforme de la sécurité a recommandé d'adopter rapidement en Conseil des ministres, la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité ainsi que son plan d'action. Un plan élaboré depuis 2018. Le Conseil a aussi recommandé l'élaboration rapide d'un plan de retour de l'administration et des services sociaux de base dans les régions du centre et du sud. Cela en vue de l'organisation des futures élections. Le Premier ministre Mokhtar Wane a indiqué que ce plan de retour doit impliquer toutes les parties concernées.
Pendant ce temps, l'association malienne des droits de l'homme, AMDH, et la Fédération internationale des droits humains, FIDH, demandent l'ouverture d'une enquête indépendante, approfondie et impartiale sur ce qui s'est réellement passé le 3 janvier dernier à Bounti, au centre du Mali. Pour y parvenir, ces organisations exhortent les autorités maliennes et françaises à mettre en place une commission d'enquête sous l'égide de la MINUSMA. Les forces armées françaises sont présentes au Mali il y a à ce jour 8 ans. Elles ont pour mission de lutter contre les groupes terroristes au Sahel. Depuis août 2014, l'opération Serval a laissé la place à l'opération Barkhane. Certains Maliens s'interrogent sur la pertinence de la présence de ces troupes au Mali. En revanche, les spécialistes estiment qu'elles jouent pleinement leur rôle dans la lutte pour le retour de la paix et la stabilité. Ces derniers recommandent la coordination entre toutes les troupes déployées sur le terrain. Serge Daniel, journaliste, écrivain, spécialiste des questions sécuritaire et joint au téléphone par Amsé Toutouré.
Alors, ce qui est important, c'est que les troupes françaises sont venues stopper l'avancée des djihadistes vers le sud. S'il n'y avait pas eu cette intervention Serval, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de victimes parmi les troupes françaises, beaucoup de victimes également parmi les troupes maliennes. Il y a du positif malgré tout ce qui se dit. Ce que je constate au bout de 8 ans de Barkhane, c'est qu'il faut peut-être mieux coordonner les actions entre les troupes qui sont sur le terrain. Vous avez le Barkhane, vous avez l'armée malienne, vous avez la MINUSMA, vous avez MENA, les troupes européennes. L'autre chose, c'est nécessaire, de mon point de vue, de considérer que le tout sécuritaire ne va pas résoudre le problème. Il faut le développement. On doit penser développement dans le nord du Mali, dans le centre, pour que la paix devienne une réalité.
À présent, le dossier de la rédaction. Le gombo est un légume très connu au Mali, mais dans les médias et autres structures, il a une autre signification. Il s'agit de l'argent que donnent certains organisateurs d'activités aux reporters après la couverture médiatique. Le gombo est aussi connu dans plusieurs autres services au Mali. Est-ce que cette activité est légale? Pourquoi est-elle pratiquée? Quels avantages et inconvénients? Reportage de Lala Aïcha Walet Infa.
Pour certains hommes des médias, le gombo est une sorte de prise en charge donnée aux reporters après la couverture médiatique d'une activité. C'est en quelque sorte du business, estime la journaliste Bintou Koulibaly.
Si vous allez sur un terrain de reportage, l'argent qu'on vous donne, c'est ça qu'on appelle généralement le gombo. Il fait en quelque sorte le business, quoi.
Le gombo est pourtant interdit dans les codes éthiques et de déontologie du journalisme, rappelle Alexis Calambri, vice-président de la Maison de la Presse du Mali.
Le code d'éthique et de déontologie précise qu'un journaliste ne se fait pas rétribuer pour un travail pour lequel ses qualités de journaliste sont requises.
Pour l'avocat Maître Cheikh Oumar Kounari, dans un pays où les salaires sont maigres et les besoins sont énormes, il faut une tolérance.
Le principe en matière de travail, c'est que l'employé doit réserver toute son activité professionnelle à son employeur. Ce principe est posé pour que le travailleur soit loyal envers l'employeur.
C'est aux autorités de trouver une solution à cette situation, déclare l'économiste Abdelkarim Djamouteni.
Il revient maintenant aux autorités de prendre les dispositions parce qu'on ne peut pas se mettre à réprimer seulement ce que la loi a dit. Lorsque les gens vont vers un service, c'est qu'il y a un besoin réel qui est là.
Rappelons que le gombo n'existe pas que chez les hommes des médias. C'est une pratique qu'on retrouve au niveau de plusieurs services, soulignent des observateurs.
64 nouveaux cas positifs de coronavirus, 35 patients guéris et un décès ont été enregistrés hier lundi au Mali. La situation cumulée est de 7664 cas confirmés, dont 5326 guéris et 299 décès. Place à présent à votre rubrique Acte Covid.
Le télétravail est un système de rotation dans toutes les entreprises employant plus de 50 personnes. Ce sont quelques-unes des mesures prises par les autorités face à la COVID-19. Pour respecter cette décision, différents services s'adaptent à leur manière à Bamako. Khalifa Goïta a fait un tour dans des services, suivant son reportage.
Le ministre de la Communication dit avoir pris des mesures spéciales pour protéger les personnels de son département contre la COVID-19. Amadou Ntouré, ministre de la Communication et de l'Économie numérique.
Nous avions pris les dispositions pour qu'il y ait un travail en alternance. Nos agents étaient tous bien équipés déjà à domicile pour pouvoir télétravailler. Nous avons commandé 1 000 000 d'unités de Wi-Fi qu'on a distribuées à tous les ministères. On a diminué beaucoup les rendez-vous physiques et la majorité de nos réunions se font par vidéo maintenant.
Toujours dans le district de Bamako, à l'entrée de la mairie de la commune 4, un kit de lavage des mains est visible. Le port du masque est obligatoire. Sur place, le chef du personnel affirme que des mesures sont prises à leur niveau aussi. Khalil Touré, chef du personnel de la mairie de la commune 4 du district de Bamako.
C'est les cadres qui sont là. Pratiquement tout le personnel subalterne reste à la maison, sauf cas de besoin. Et les cadres, ils ne sont pas très nombreux. Donc, il est facile de respecter les mesures édictées dans ce sens-là. Donc, à ce niveau, on n'a pas de contraintes.
Du côté des services privés, beaucoup n'ont pas souhaité réagir. Mais à l'intérieur du pays, le constat n'est pas le même partout. Dans certaines régions, les services se soumettent à ces mesures. Dans d'autres, elles sont complètement ignorées.
À présent, la question d'auditeur du jour. Puis, la réaction de Dr Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, point focal COVID-19 de l'hôpital du Mali.
Allô docteur, un mauvais usage des gants peut être un facteur de contamination au coronavirus?
Évidemment, les gants doivent être utilisés au moment où vous allez manipuler un élément dangereux. Et après, vous devrez vous débarrasser de ces gants, nettoyer les mains et puis passer à d'autres choses. Sinon, porter des gants comme on le voit en longueur de journée, vous allez toucher vos téléphones avec, vous allez toucher vos lunettes avec. Tout ce que vous n'avez pas craint de toucher parce que vous avez des gants, vous allez les porter sur vos objets de valeur qui vont vous contaminer après.
Ainsi prend fin ActiCovid d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de suivre les conseils des médecins pour vous protéger.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays en quelques brèves, la commune rurale de Tomora, dans le cercle de Bafoulavé, a bénéficié d'un financement de plus de 152 millions de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du projet Diaspora. Cette somme a été octroyée grâce au partenariat tripartite entre l'Agence française de développement, l'Association pour le développement d'Oussoubidjania et la mairie de la commune. Un financement qui a permis la réalisation d'adduction d'eau, d'un verger doté d'un système d'irrigation l'intervention et la construction d'un centre culturel. Les forces armées de sécurité appuyées par la police ont entamé lundi dernier une vaste opération de contrôle des motos et des véhicules des forains. Cette action vise les engins en provenance des communes de Boron, Sébété, Toubakoro et Toukoroba. Elle s'inscrit dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens afin de limiter l'infiltration des bandits armés les jours de foire. Le prix du kilo du poisson varie actuellement entre 1750 et plus de 3000 francs CFA sur les différents marchés de Koulikoro. Selon les revendeurs, ce prix est plus élevé par rapport à celui de l'année passée à la même période. Cette cherté s'explique selon les pêcheurs par la rareté du poisson dans les cours d'eau malgré l'abondance des pluies cette année. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal présenté par Sikou Gadjigo, mis en onde Mamadi Keita. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur Suviamou au 37 321.